HDR.
Ceci est une émission de radio.
Nous interrompons notre émission pour un message urgent.
Je le répète, ceci est une émission de radio.
99.1.
I feel a vibration.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce que je disais déjà?
I feel it.
Tout de suite monsieur.
Bonsoir, notre rendez-vous mensuel avec Amnesty International, du groupe de Rouen et Mont-Saint-Aignan, avec Marie-Catherine.
Bonjour.
Nicole.
Bonjour.
Lauriane.
Bonjour.
Et Marie, toujours fidèle au poste. Nous allons aborder avec Marie-Catherine un sujet un peu difficile, les Rohingyas en Birmanie. Avec Nicole, nous continuerons à évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous vous l'avions promis à l'émission précédente. Donc, nous parlerons cette fois-ci de leur caractère universel. Et Lauriane nous parlera des bonnes nouvelles, des événements d'Amnesty, comme toujours en dernière partie. Voilà. Donc, bonjour Marie-Catherine.
Bonjour.
On commence donc sur le sujet des Rohingyas. On va peut-être d'abord expliquer qui sont les Rohingyas, dans quel pays ça se passe, quel pays ils habitaient, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qui sont les Rohingyas.
Pour commencer, avant de préciser, je dirais que, et là je reprends les paroles du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les Rohingyas, c'est la minorité ethnique actuellement la plus persécutée dans le monde, ce qui justifie vraiment qu'on en parle aujourd'hui. Alors, les Rohingyas, c'est une minorité musulmane qui habite en Birmanie. La Birmanie est un pays qui est à 90% bouddhiste. C'est une minorité musulmane, mais ce ne sont pas les seuls musulmans de Birmanie. Ils vivent tous, disons, dans un état qui est au nord-ouest de la Birmanie, l'état d'Arakan, où ils sont également minoritaires et qui est également à 90% bouddhiste. Ils sont, l'objet de discriminations extrêmement graves de la part de la population. Et ils sont, depuis quelques années, victimes de violences. Là, je reprendrai encore un terme du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une violence inconcevable.
Mmh. Est-ce qu'on sait depuis quand ils habitent cet état de l'Arakan et pourquoi cette enclave, on peut dire, musulmane au sein d'un pays majoritairement bouddhiste? Ils sont arrivés comment?
Ils sont arrivés il y a longtemps, justement. Enfin, ils sont traités comme des étrangers. Ils n'ont pas de citoyenneté, ils n'ont pas de papier. Mm-hmm. Leur ethnie n'est pas reconnue comme ethnie nationale. Et pourtant, quand on regarde l'histoire, ils ont commencé à venir en Birmanie au XIXe siècle. En fait, ils ont été amenés par les Britanniques. Alors, les Britanniques ont été dans une espèce de guerre coloniale extrêmement violente avec la Birmanie de 1820 à 1886, qui est la date officielle de la colonisation de la Birmanie par les Britanniques. Et en fait, ils ont été amenés donc par les Britanniques pour quelles raisons? Qui ont amené des musulmans en Birmanie pour diviser la population. Et ils ont été, favorisés par les Britanniques. Ils ont obtenu les postes les plus favorables, etc. Donc, ce qui a inspiré des frustrations,
bien
des
sûr.
Jalousies. Alors, ça fait énormément penser à ce qui s'est passé au Rwanda, où la colonisation belge avait énormément privilégié la minorité Tutsi par rapport à la majorité Hutu. C'est un petit peu la même chose, et les haines qui s'en suivent.
Bon, c'est un bon foyer de haine et de...
Bon, alors, ça peut être une raison historique. De la situation de discrimination dont ils sont victimes, ça paraît quand même lointain. Je crois aussi que le problème des violences, de la persécution des Rohingyas, ça vient des discours de haine qui se sont développés et qui ont manipulé complètement l'opinion publique. Mm-hmm. Si bien que la population est très hostile aux Rohingyas.
On va en parler aussi tout à l'heure.
Alors ça, on va en parler parce que...
Le rôle des réseaux sociaux récemment.
Oui, et je crois qu'en plus, c'est un phénomène qui peut se retrouver dans d'autres pays. Il faut vraiment en parler. Voilà. Donc, différents éléments qui peuvent expliquer les raisons pour lesquelles ces Rohingyas ont été privés de leur citoyenneté en 1982, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papier. Ça veut dire qu'ils ont un accès extrêmement difficile à la santé, à l'éducation. Ils ont besoin d'un permis pour sortir de leur village. Ils ne peuvent pas voter, bien sûr, mm-hmm. Ça, je dirais, c'est mm-hmm. évident. Ils ne sont pas citoyens. Donc, ils sont privés des droits et ils sont dans un état d'extrême pauvreté, bien entendu, ce qui s'ensuit. Et victimes de cette haine ambiante qui est quelque chose de très étrange et vraiment très inacceptable, insupportable.
Disons que c'est un état presque d'apartheid.
Hein, ah bah, tout à fait, on peut utiliser, Amnesty a utilisé le terme.
Voilà,
d'ailleurs.
Qui était là, et il s'est passé un certain nombre d'événements récemment qui sont allés beaucoup plus loin que de l'apartheid, puisqu'on les a fait fuir, etc. Qu'est-ce qui a déclenché l'espèce de massacre ou de d'épuration
ethnique,
dire
massacre,
fait qu'ils ont dû partir, ils ont été chassés justement de la Birmanie.
Oui, parce qu'il
y a eu un événement déclencheur.
Il y a environ 1 million de Rohingyas sur plus de 50 millions d'habitants en Birmanie. Mm-hmm. Mais quand je dis « ils habitent dans l'Arakan », je parle au présent, mais ils sont presque tous partis.
C'est du passé maintenant, hélas.
C'est du passé, bon. Qu'il y a eu, à certaines dates, 2012, 2015, 2017, il y a eu des pics de violence absolument épouvantables, qui étaient des représailles complètement disproportionnées. Donc, en 2012, par exemple, il y a 3 Rohingyas qui ont violé une femme rakhine. Alors, les rakhines, ce sont les habitants de l'Arakan, mais les habitants non Rohingyas, bien entendu. Donc, 3 Rohingyas ont violé une femme rakhine et la population s'est précipitée sur un bus où il y avait des Rohingyas et ont lynché 10 musulmans. Mm-hmm. Bon, il faut savoir quand même que les 3 coupables, ils ont été identifiés, jugés, condamnés à mort. Mais bien que justice ait été rendue, la population s'est retournée, non seulement dans la ville où l'événement a eu lieu, mais même ailleurs dans l'état d'Arakan, s'est complètement retournée contre les Rohingyas. Et là, il y a eu déjà un début d'émigration des Rohingyas vers la Malaisie, vers l'Indonésie et surtout vers le Bangladesh.
D'accord, mais après, on peut dire que l'État birman s'en est mêlé, puisque les militaires sont intervenus. N'est pas resté un conflit local,
une
mini-guerre civile dans l'État d'Arakan.
Surtout, disons, en 2015. En 2015, là, si vous voulez, dans une population discriminée de cette façon-là, il y a nécessairement un moment où des jeunes en particulier vont se rebeller et avoir recours à des actes violents. Bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, en 2015, il y a des jeunes, un groupe rebelle, qui s'est attaqué à un poste frontière. Donc, au lieu de faire une enquête sur les responsables de cette attaque et tout, il y a eu immédiatement des représailles énormes sur la population Rohingya dans les villages. Ils sont essentiellement dans des villages. Hein. Bon. C'est-à-dire, les soldats sont rentrés dans les villages, ils ont tiré sur des hommes, des enfants, des femmes. Des hélicoptères y ont participé aussi. Ils ont violé des femmes. Le viol, à très grande échelle, en Birmanie, c'est une arme de guerre. Donc des forces de sécurité, hein, des soldats. Et puis après, ils ont brûlé les maisons des Rohingyas qui fuyaient. Mmh. Donc il y a eu une première vague d'émigration en 2015. Et il y a un peu plus d'un an, fin août 2017, il y a eu exactement le même processus, une attaque de poste frontière, 9 policiers tués, et des représailles, donc là encore totalement disproportionnées. Et il y a eu encore 700 000 Rohingyas qui ont fui essentiellement vers le Bangladesh.
Voilà, on a vu sur les images à la télé qu'ils passaient le fleuve qui fait la frontière, apparemment.
Alors, ils passent le fleuve, le Bangladesh a fermé ses frontières et on se retrouve devant quelque chose que vous avez déjà abordé dans cette émission, c'est-à-dire des vagues de réfugiés qui partent, qui traversent un fleuve qui s'appelle la Naaf, qui est extrêmement tumultueux, et des naufrages de bateaux. Il y a eu un bateau où il y avait essentiellement des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants seuls, dont les parents ont été tués, qui ont un bateau qui avait fait naufrage de cette façon-là. Bon, donc finalement, Médecins sans frontières évalue à 900 000 le nombre de Rohingyas qui sont actuellement réfugiés dans un immense camp de réfugiés au Bangladesh, qui a bien été obligé de les accepter, si je puis dire. Le plus grand camp de réfugiés au monde.
Oui. Presque 1 million de personnes dans un
presque,
camp.
Voilà.
C'est sidérant.
Donc, plus beaucoup de Rohingyas en Birmanie, à part ceux qui sont cachés dans des forêts, etc., qui ne reçoivent aucune aide alimentaire et qui sont évidemment dans une situation de désespoir complet.
Alors, depuis toutes ces exactions, dont on a quand même tous entendu parler...
Oui, on en entend parler, puis après on a l'impression,
c'est
ça le problème aussi de l'information, on a l'impression que c'est passé, on n'en parle plus, comme si le problème était réglé.
Oui, mais les organisations internationales, notamment l'ONU, se penchent sur la question depuis quelques temps, et on commence à parler vraiment de crimes contre l'humanité, des chiffres circulent, peut-être des inculpations.
Il y a eu une grosse mobilisation de la communauté internationale avec les événements de fin août 2017, enfin je dirais de la fin de l'année 2017. il y a eu une énorme mobilisation et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a créé une mission d'établissement des faits qui n'a pas pu rentrer en Birmanie pour faire une enquête parce que les autorités birmanes l'ont refusé. Qui a donc opéré, comme a opéré Amnesty d'ailleurs, et comme opère souvent Amnesty quand on ne peut pas aller sur les lieux, c'est-à-dire en recueillant un très grand nombre de témoignages et aussi en étudiant des vidéos, les vidéos qui sont parvenues à sortir, et des images satellites. Des images satellites qui montrent en particulier des panaches de fumée qui prouvent que les maisons ont été brûlées, ce que nient les autorités birmanes, qui disent non, ce n'est pas vrai, c'est une espèce de complot occidental, de haine de la Birmanie, qui fait que on est en fait calomnié. Voilà. Donc il y a beaucoup de preuves qui ont été réunies. Un rapport de 444 pages présenté à Genève au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, des droits de l'homme de l'ONU, oui, c'est ça, en septembre dernier.
Tout à fait. Donc l'information est récente et on envisage même, enfin l'ONU envisage même de poursuivre en justice à la...
Alors voilà, il y a deux choses. On envisage des sanctions. Les sanctions, en fait, qui ont déjà... C'est pour ça qu'il faut croire à la pression internationale, parce que la Birmanie a connu un régime militaire jusqu'en 2010. Et ce sont les pressions internationales qui ont permis que finalement les militaires redonnent le pouvoir aux civils et libèrent des prisonniers politiques. Donc il faut y croire. Donc les sanctions après ont été levées. Donc il est question, bien entendu, de rétablir des sanctions. Et puis une demande de la part du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qu'il y ait que la Cour pénale internationale ouvre une enquête sur ce qui se passe en Birmanie.
Voilà, avec que la justice fasse son travail vis-à-vis des individus eux-mêmes, des militaires ou autres qui seraient
des
responsables,
militaires essentiellement,
qui seraient reconnus responsables.
Des hauts gradés militaires qui sont responsables de ces...
Je voulais juste dire une chose, on a oublié de préciser, peut-être pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, c'est que la Birmanie, elle a un autre nom justement depuis le changement de pouvoir, je pense.
Même avant. La Birmanie...
Elle a deux noms, en fait.
Le Myanmar, depuis 1989, mais en fait, on n'utilise pas ce nom. Donc, nous, on continue à dire Birmanie, comme les médias d'ailleurs. Bon, c'est pour plusieurs raisons. C'est aussi parce que la Birmanie n'est pas seulement une région de Birman. Bon, ce nom est le nom officiel, mais en fait, on continue à dire Birmanie.
Enfin, Myanmar, c'est l'équivalent, on peut dire.
Hein, absolument.
Parce que, pour qu'il
c'est
pas
le nom officiel.
Voilà, il y a deux noms. Alors, on peut peut-être parler justement de la prise du pouvoir par les civils. Quand tu disais que la pression internationale avait permis que la dictature s'arrête officiellement, est arrivée au pouvoir à ce moment-là une femme très connue.
Alors, pas tout de suite, mais en fait, à Aung San Suu Kyi.
Voilà, grâce à des élections.
Alors oui, il y a eu des élections libres. Donc, les militaires ont rendu le pouvoir en 2010, ont libéré des prisonniers. Bon, il y a eu un pouvoir un peu transitoire, on va dire, et des élections libres qui ont été organisées en 2015. Avec le parti donc, de cette icône, de celle qui était l'icône des défenseurs des droits de l'homme, Aung San Suu Kyi.
C'était quand même une... Elle était prix Nobel de la paix.
Oui.
Et elle était tenue en résidence surveillée par les militaires depuis des années et des années.
Entre 20 ans. Entre
20 ans, voilà, elle était
2010,
enfermée chez elle, on peut dire. Et elle représentait la lutte pour la liberté. Elle est arrivée au pouvoir. Et qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ce qui se passe en ce moment
on est extrêmement déçus. Alors, au début, elle s'est tue parce qu'elle est arrivée au pouvoir en 2015, donc la première vague de violence dont j'ai parlé. Et en fait, elle s'est tue. Et les gens étaient assez indulgents. Ils ont dit qu'elle se tait parce que l'armée a gardé un pouvoir en Birmanie. L'armée a automatiquement 25% de députés au Parlement. Plusieurs ministres qui sont des anciens militaires. Donc, si elle s'en prend à l'armée, elle risque de fâcher l'armée et il y a un risque de coup d'État. Donc, beaucoup de gens ont compris qu'elle se taise, même si ce n'était pas acceptable. Le problème, c'est qu'elle est allée plus loin que le silence. C'est-à-dire que, étant quand même interpellée, notamment sur les événements de 2017, elle nie l'existence de ces massacres, elle se met en colère et elle dit qu'il y a une sorte donc de complot international, que les Occidentaux ne savent pas ce qui se passe en Birmanie, etc. Donc elle le déçoit beaucoup parce qu'elle a une attitude évidemment tellement en contradiction avec ce qu'elle a été quand elle était en résidence surveillée, beaucoup plus libre de parole sans doute, Et puis, il y a autre chose qui est quand même inquiétant, c'est que quand la démocratie a été rétablie en Birmanie, la liberté d'expression a été également rétablie. Donc, il y a des choses qui sont... Enfin, il y a par exemple deux journalistes qui ont fait une enquête pendant les massacres en 2017, qui ont pu aller sur les lieux, qui ont envoyé des vidéos sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont été arrêtés, accusés de s'en prendre à des secrets d'État et condamnés à 7 ans de prison.
Ce sont des journalistes étrangers de Reuters.
De Reuters, oui. Mm-hmm. Plus récemment, en octobre, je crois, oui, c'est vraiment tout récent, il y a des journalistes d'un hebdomadaire birman, donc là vraiment des Birmans, qui se sont plaints de la manière dont la municipalité de Rangoon, la capitale, gérait une affaire d'achat d'autobus scolaires. C'est pas très méchant, ils parlaient pas de corruption ni rien. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés parce qu'ils poussaient, enfin, ils créaient un sentiment de panique dans la population, qui est quand même un argument un peu étonnant pour s'en prendre à un article qui n'était quand même pas à ce point sévère vis-à-vis du gouvernement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui, enfin, par rapport à ce qu'on espérait quand Aung San Suu Kyi est devenue Premier ministre de Birmanie, l'équivalent. Et une déception énorme.
Voire même une collusion, on pourrait dire, avec...
Oui, même si on admet qu'il faut qu'elle fasse attention, elle va très loin.
Oui, est-ce qu'on peut se compromettre à ce point? C'est ça la question. Quand on est prix Nobel de la paix, ce que certains lui contestent actuellement, absolument. Il y a des pays qui remettent en question le fait qu'elle ait le prix Nobel de la paix.
Absolument. Bon, on ne le lui retirera pas sans doute, mais le Canada lui a retiré son statut de citoyen d'honneur qui avait été accordé à Mandela, qui avait été accordé au Dalai Lama, à Malala, la jeune pakistanaise qui a milité pour l'éducation des filles au Pakistan. Et donc, il lui a retiré ce prix et a également donné de l'argent en faveur du camp de réfugiés. Donc au Bangladesh et aussi des autres ethnies en Birmanie qui sont quand même
donc le Canada s'affiche ouvertement.
Et ben, symboliquement c'est très très fort parce que ça la met un peu au pied du mur.
Bien sûr.
Donc je pense que c'est ce genre d'action et puis une justice aussi internationale parce que c'est l'impunité aussi qui entraîne les violences. Ces militaires sont restés totalement impunis en Birmanie.
Est-ce qu'on peut dire deux mots aussi de j'ai vu récemment une information au sujet du rôle de Facebook. Là-bas, en Birmanie, qui a joué un rôle un petit peu ambigu, plus qu'ambigu, puisqu'ils ont fermé leur compte le 27 août, au moment où l'ONU a commencé à enquêter, à dire qu'il y avait vraiment comme un génocide. Et Facebook a fermé la page qui était accordée au chef de l'armée birmane.
Et à un certain moine bouddhiste.
Et au moine Viratou. Que vous avez peut-être vu dans le film qui lui a été consacré.
Oui, c'est un film qui a été un peu confidentiel, mais qui est assez extraordinaire.
Ouais, c'est un moine
parce
bouddhiste.
Il faut savoir que ces discours de haine dont je parlais tout à l'heure, ils ont été essentiellement prononcés par des moines bouddhistes extrémistes. Ce qui, évidemment, n'est pas l'image du bouddhisme qu'on peut imaginer. Et donc, Facebook a été effectivement accusé d'avoir laissé des discours de haine avant d'exercer le contrôle qu'il doit exercer, d'avoir laissé ces discours de haine se répandre.
Donc on peut terminer sur une note d'espoir quand même, puisque ce que l'ONU a engagé, enfin la commission, enfin le Haut Commissariat aux droits de l'homme a commencé vraiment à faire un travail sérieux pour que tout cela soit dénoncé, mis en question, etc. Des pays comme le Canada, peut-être d'autres vont suivre, commencent vraiment à désavouer la présidente.
Alors, ils sont très protégés par la Chine, il faut le dire. C'est bien le Conseil de sécurité ne peut rien faire, une fois de plus. Mais la pression internationale, on peut y croire. Mmh. Et puis, surtout, la lutte contre l'impunité. Donc, il faut se dire. Et mettre aussi Aung San Suu Kyi au pied du mur.
Bien sûr.
Voilà. Mmh.
D'accord, affaire à suivre. Oui. Nous allons faire une pause musicale après ces informations un peu lourdes. On vous propose puisque Radio HDR qui nous accueille si gentiment, c'est la radio, le mix des cultures, c'est le slogan de Radio HDR. Donc nous avons décidé de mixer les cultures. Peut-être connaissez-vous la grande diva de l'opéra, Montserrat Caballé, qui vient de nous quitter, hélas, qui était une diva, une chanteuse d'opéra espagnole, catalane, plus exactement, qui est née en Catalogne. Et qu'on surnommait la Superba, parce qu'elle avait une voix formidable, presque équivalente à celle de la Calas, une technique, une longueur de chant, etc., vraiment incroyable. Et elle n'a pas seulement chanté du classique, Rossini, Bellini, etc., Mozart, elle a fait des incursions dans le répertoire rock, elle a chanté avec Freddie Mercury, vous connaissez sûrement la chanson Barcelona qu'elle a interprétée majestueusement avec Freddie Mercury. Ça, c'est connu, mais par contre, moins connu, c'est la version qu'elle a faite avec Johnny Hallyday, qui vient aussi de nous quitter et dont on parle beaucoup. Donc, deux grandes voix, Montserrat Caballé et Johnny Hallyday, qui chantent pour ceux qui sont loin de chez eux. Et c'est le cas des Rohingyas, qui sont donc exilés, on peut dire, loin de chez eux. Donc, on a envie de leur rendre hommage avec cette chanson qui symbolise bien le mix des cultures.
Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour eux, ouais, qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui
Bien, nous venons d'écouter donc Montserrat Caballé avec Johnny sur Radio HDR. Vous êtes bien dans l'émission d'Amnesty International sur Radio HDR, Léo de Rouen. Et Nicole, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes vus il y a un mois déjà au sujet de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous allons fêter les 70 ans au mois de décembre. Nous les avons présentés assez largement, assez longuement même. Et on souhaitait revenir sur un débat qui actuellement est assez vif au sujet du caractère universel des droits de l'homme qui ont donc été adoptés par la plupart des pays dans le monde, mais qui font l'objet d'un questionnement. Alors on va essayer de développer un petit peu les enjeux du débat, qu'est-ce que ça révèle, etc., etc. Voilà, donc Nicole.
Oui, alors à la question « Est-ce que les droits de l'homme sont universels ?», les militants d'Amnesty International répondent « Oui, évidemment ». Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et c'est intéressant de voir les arguments, leurs arguments, pour pouvoir les réfuter, parce qu'on ne peut pas les écarter d'un revers de la main. Mm-hmm. Alors, c'est une question qui n'est pas récente, en fait. La question se pose dès le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Parce que pendant le Moyen-Âge, on pense que c'est Dieu qui est la source du droit. Et à partir du moment où on pense que la loi ne vient pas de Dieu, se pose la question, qu'est-ce qui fonde le droit ? La question du fondement. Mmh. Et alors à ce moment-là, deux thèses s'opposent, et elles s'opposent toujours. La première, les tenants de l'universalisme disent, le droit s'enracine dans un droit naturel, découvert par la raison, et qui dit naturel dit universel. Mmh. Ça, c'est l'universalisme. Et puis, il y a ceux qui disent, non, le droit, c'est un ensemble de règles que les sociétés se donnent, et ces règles sont variées, elles diffèrent d'une culture à l'autre. Et on appelle ceux qui sont les tenants de cette thèse les relativistes, donc encore les culturalistes.
Le droit serait relatif, comme on dit, à chaque pays ou à une culture donnée, voilà. Et non pas à l'ensemble des êtres humains en tant que nés humains, nés de voilà.
Oui. Et alors aujourd'hui, ce qui est inquiétant pour nous, les universalistes, c'est que le relativisme gagne de plus en plus de terrain. Mm-hmm. C'est-à-dire que des dictateurs ou des régimes autoritaires sont de moins en moins complexés pour justement contester cet universalisme et pour afficher ouvertement leur mépris des droits humains et agir en conséquence. Mm-hmm. Donc c'est un phénomène qui est inquiétant. Mm-hmm. Vraiment, j'en reparlerai peut-être plus en détail tout à l'heure.
Oui, parce que ça n'est pas très surprenant, ce sont plutôt des gens autoritaires, des gouvernements autoritaires, des dictateurs,
oui,
comme tu dis.
Oui,
qui
mais
ne
on
veulent
verra
pas
aussi,
trop entendre parler.
Je développerai peut-être un peu tout à l'heure, que même les démocraties, on voit qu'ils invoquent des conditions particulières. Enfin, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais pour bien comprendre l'affrontement de ces deux thèses, je pense que c'est intéressant de revenir à une conférence qui a été très importante. C'est la conférence qui se tient à Vienne en 1993, oui, c'est-à-dire 45 ans après la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, c'était dans le cadre de l'ONU. Le titre exact de la conférence était « Conférence mondiale sur les droits de l'homme ». Alors, il y avait quand même 7000 délégués, 170 pays étaient représentés. Je vous rappelle qu'au moment de la proclamation de la Déclaration universelle, il n'y avait que 58 pays.
Oui.
Bon. Donc, il y avait beaucoup d'ONG qui étaient représentées. Donc, la presse en a beaucoup parlé. Il y a eu rencontres et débats. Et au terme de toutes ces rencontres, de tous ces débats, finalement, c'est l'universalisme qui a été réaffirmé de façon très ferme. Il y a eu des réticences, mais il n'y a pas eu de rupture. Mmh. Alors, je donne l'extrait final.
Oui.
L'extrait de la déclaration finale, la formule est très importante. « Tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants. »
D'accord.
Vous voyez cette formule ? Mmh. Universel, indivisible, interdépendant. Et on ajoutait qu'il est du devoir des États de les faire respecter. Et on ne peut pas considérer comme une ingérence illégitime dans les affaires d'un pays, d'un État souverain, ça veut dire que quand il y a violation des droits dans un pays, le monde est concerné. Mmh. C'est-à-dire, vous et moi, ça nous regarde.
Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a appelé à un moment donné le droit d'ingérence ?
Les humanitaires en France ont évoqué ce droit d'ingérence par rapport à des massacres
qui avaient lieu en Afrique.
Oui, c'est le fondement de ce droit d'ingérence. Et c'était une réelle avancée, même les ONG comme Amnesty l'ont salué. Et je voudrais citer les propos de Frédéric Mayor, et qui présidait la conférence. Alors, il disait « Les droits de l'homme sont universels parce qu'ils transcendent les différences culturelles. Les valeurs au nom desquelles sont invoqués ces droits correspondent aux aspirations inhérentes à la nature humaine. Mm-hmm. » Et c'est la contradiction, évidemment, de ce que disent les relativistes. Et à ce moment-là, c'était Boutros Ghali qui était le secrétaire général de l'ONU. Il disait, dans la déclaration finale, « Elle n'est pas l'expression de la domination idéologique d'un groupe d'États sur le reste du monde. » Ce n'est pas la domination idéologique.
Donc, il y a une critique qui revient assez souvent, qui consiste à dire que la Déclaration des droits de l'homme, elle a été élaborée et conçue par les pays d'Occident, par exemple.
Oui, alors on peut rétorquer que, j'en parlais la dernière fois, il y a une petite équipe qui s'est groupée autour de René Cassin, mais il y avait aussi des représentants de la Chine, de l'Amérique latine, donc ce n'est pas uniquement le produit de l'Occident.
Et elle n'a pas été imposée, puisqu'elle a fait l'objet, au moment de son élaboration, enfin de son adoption, disons, de discussions, de débats, de votes,
et d'un vote final, oui, voilà.
Tout à fait, par tous les pays concernés.
Alors, je dois dire aussi que le fait qu'on ait affirmé cette universalité des droits de l'homme, à ce moment-là, en 1993, il faut dire que le contexte était favorable, parce que c'est la fin de la guerre froide, les empires coloniaux se sont effondrés, et il y a une espèce d'optimisme, de confiance dans l'ONU à ce moment-là. Bon, ça n'a pas duré pour bien des raisons. Mais tout de même, à cette assemblée, c'est ça qui est intéressant, c'est que des critiques, des objections se sont élevées contre l'universalisme des droits de l'homme. Voilà.
Ce qui était nouveau.
Une contestation.
Et est-ce qu'on a une géographie un petit peu des pays qui contestent le plus ?
Oui, alors, la contestation... Alors, on en avait à peine fini avec les droits bourgeois dont l'URSS qualifiait les droits civils et politiques, que la contestation vient de ce qu'on appelait à ce moment-là le tiers-monde. C'est-à-dire qu'il y avait des intellectuels des pays d'Afrique et d'Asie qui ont exprimé des arguments. Ils insistent plus ou moins sur tel ou tel argument, mais il y a des points communs. Il y a des points communs. Et notamment, ils disent il faut tenir compte des différences culturelles et religieuses dans un monde qui est multiculturel. En gros, vos droits de l'homme ne sont pas les nôtres. Ce qui est un peu caricatural, parce que ils acceptent certains droits de l'homme. Et justement, s'ils acceptent certains et pas d'autres, ils réfutent la formule « les droits sont universels, indivisibles et interdépendants ». Alors, ils ajoutent aussi « de quels droits vous voulez nous imposer ces droits de l'homme qui sont le produit de la civilisation judéo-chrétienne ?» Et face à d'autres croyances et d'autres cultures, en plus, vous voulez nous les imposer. Qu'est-ce que vous faites du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? Qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous voulez nous les imposer, c'est une couverture pour s'ingérer dans nos affaires du monde en développement.
C'est-à-dire que ça recoupe un peu une domination économique. Il y aurait une domination idéologique qui recouvrirait une domination économique, puisque les pays du tiers-monde, on peut rappeler l'expression, elle est un peu désuète maintenant, mais c'était à l'époque ce qu'on appelait les pays en voie de développement ou les pays sous-développés. C'était la troisième partie du monde. Il y avait le monde occidental, il y avait le monde de la guerre, enfin le monde des pays communistes, et le tiers-monde, c'était les pays sous domination.
On disait même les pays non alignés aussi.
Voilà, non alignés, les pays pauvres, on peut dire. Donc effectivement, il y avait une réalité économique de domination qui pouvait prêter à confusion.
C'est vrai aussi que il se donnait comme argument, vous ne respectez même pas les droits de l'homme que vous proclamez. Et c'est vrai que la légitimité des droits humains serait plus forte si les démocraties étaient
exemplaires. Évidemment.
Voilà. Alors, il y avait aussi un autre grand argument qui est intéressant aussi à cause des cultures. Il disait, c'est les intellectuels qui développaient cet argument, disaient, nous, on est pour la primauté d'un ordre traditionnel. L'ordre de la famille, l'ordre l'harmonie dans la famille. Et alors que par opposition à un ordre individuel qui s'attache surtout aux libertés et à l'égalité, et plus qu'à l'intérêt général, l'intérêt des groupes.
Oui. Voilà. C'est le cas par exemple en Asie, où effectivement la notion de collectif, de sociabilité... prime parfois sur l'individu.
La
culture asiatique.
Effectivement, si on détaille un petit peu, on peut voir que en Chine, par exemple, ou à Singapour, on s'appuie encore sur les traditions millénaires, notamment sur Confucius, où on insiste sur les valeurs de l'obéissance, du respect de l'ordre, du respect de l'autorité. Mais on insiste aussi beaucoup sur le fait que l'intérêt général prime sur l'intérêt des individus. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est l'argument principal.
Ok. Un autre argument, disons, une autre contestation vient effectivement ce qu'on évoquait il y a un instant, du double langage de certains pays. La France n'est pas en dehors de cela. Les États-Unis, etc., qui, par exemple... ne se privent pas de vendre des armes à des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et par ailleurs, au nom des droits de l'homme, il faudrait ceci, cela. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
C'est vrai
ambigu,
que
quand nous-mêmes, nous avons une position.
Les démocraties mènent un double langage. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'ils se permettent la cohabitation entre des interdictions et des exceptions aux interdictions. Mm-hmm. Cela au nom de l'intérêt général qu'ils évaluent eux-mêmes et qui sont tout prêts à condamner ceux qui ne les respectent pas. Alors, si on prend le cas des États-Unis, qui est un cas typique, son image s'est considérablement dégradée sous la présidence de Bush. Ça ne s'arrange pas avec Trump. Mm-hmm. Mais Bush est allé jusqu'à justifier la torture qui a été pratiquée à Bagram en Irak et à Guantanamo avec l'argument que c'est pour le... c'est l'argument de la sécurité contre le terrorisme. C'est le grand argument des pays qui violent les droits de l'homme. C'est nous faisons ça pour...
Contre le terrorisme. Contre souvent, c'est un argument qui revient. Et si on parle de Guantanamo, ça a été plus long, parce qu'il n'y avait même pas de procès. Les gens ont été enfermés, enfin, les personnes qui ont été enfermées n'ont jamais eu de procès.
Jamais eu de procès régulier, oui.
Donc,
effectivement.
C'est un déni de justice total.
Oui. Le grand argument, c'est...
Effectivement.
Dans la plupart des pays, c'est la sécurité contre le terrorisme. Il y a aussi... une autre opposition dont je voudrais parler aussi, c'est celle des pays d'islam.
Oui.
Mmh. Oui. Alors, justement, avant cette conférence de Vienne, trois ans avant, il y avait eu un certain nombre de pays, c'était des oulémas qui avaient rédigé un document qui était un contre-projet par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mmh. Ce contre-projet, ça se présente comme une déclaration, la déclaration... des droits de l'homme en islam.
En pays d'islam, c'est ça.
Oui, la déclaration des droits de l'homme en islam. Mm-hmm. Alors, ça se présentait exactement comme la déclaration universelle, avec un préambule et puis une série d'articles qui détaillaient tous les droits. Mm-hmm. Bon. Mais on peut voir, si on en choisit quelques-uns, que c'est en contradiction avec la déclaration universelle des droits de l'homme. J'en prends, par exemple, l'article 24. « Tous les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration sont subordonnés aux dispositions de la loi islamique, la charia, la loi de Dieu. » Alors, à partir du moment où la charia est l'unique référence, dans la charia, il n'y a pas égalité entre les hommes et les femmes, et il n'y a pas aussi égalité entre les musulmans et les non-musulmans. Mm-hmm. En ce qui concerne la femme est l'égale de l'homme en dignité. On ne dit pas en droit.
Mais pas en droit.
Ça n'apparaît pas. Mais, on ajoute, elle jouit de ses propres droits ainsi de ses propres devoirs. Mm-hmm.
Bon.
Ou encore, concernant la liberté d'expression, tout homme a le droit d'exprimer son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec la charia. Mm-hmm. Où est la liberté d'expression? Ou encore, je m'arrêterai là, l'islam est la religion naturelle de l'homme, il n'est pas permis de soumettre ce dernier à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ou l'athéisme. Donc, c'est en contradiction avec l'article 18 de la Déclaration universelle.
Qui parle de liberté de choisir sa religion. Alors, ou pas de religion, etc., dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Voilà. Alors, je voudrais ajouter quand même qu'il existait déjà, et il existe toujours, des contradicteurs par rapport à ces oulémas qui disaient que, en fait, c'est une conspiration pour saper l'identité musulmane et que c'est une idéologie de l'Occident datée historiquement. À cela, des rénovateurs, à l'époque, il y avait Mohamed Harkoun, mais il y en a eu bien d'autres depuis, ils rejettent une lecture littéraliste du Coran et des hadiths qui datent du 7e, ne l'oublions pas quand même. Et donc, contrairement à ces intégristes, ils adhèrent à la Déclaration universelle, ils en font même l'éloge. Mmh. Et puis aussi, il y a la plupart des pays arabes, les pays musulmans, ont adhéré à l'ONU, dont ils ont reconnu la charte. Mmh. Et puis surtout, ils ont signé et ratifié les pactes et de très nombreuses conventions qui les engagent, puisqu'on a vu la dernière fois que ces pactes et conventions visent à rendre effectives les droits humains. Voilà.
D'accord.
Alors, on peut rajouter aussi que, pour les tenants d'universalisme partout dans le monde, la formulation des droits humains doit finalement s'appuyer sur la raison qui est universellement partagée, et pas sur des motifs religieux qui ne sont pas universellement
bien
partagés.
Sûr, voilà. Bien sûr. On peut peut-être terminer sur une formule tout à fait intéressante.
Oui.
Que tu nous as donnée, qui est très, très intéressante.
Oui, c'est vrai que...
Ce qui fait l'universalité des droits humains.
Oui, on ne peut pas... Je voudrais conclure en disant qu'on ne peut pas du tout considérer comme acquise cette notion de l'universalité des droits humains. On est bien loin de cet idéal qui est proclamé dans le préambule, et je conseille d'ailleurs aux auditeurs d'aller sur Internet pour voir le texte de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, lire le préambule et la liste des 30 articles. Mais dans le préambule, par exemple, il y a cette phrase, quel est le but visé ? C'est l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Et alors, devant cet énorme fossé qu'il y a entre cet idéal et la réalité, il y a deux attitudes possibles. Ou bien c'est la résignation, ou bien alors ça donne envie de se battre pour justement que ces droits de l'homme soient une réalité effective. Et alors, si on cherche un minimum de consensus sur le respect des droits humains, à ce moment-là, cette formule que tu as employée tout à l'heure, que j'ai trouvée je ne sais pas où, mais que je trouve très sous une forme ramassée et peut-être un petit peu réductrice, c'est... Ce qui fait l'universalité des droits de l'homme, c'est le cri des victimes.
Voilà, une bonne formule pour une dissertation pour nos collégiens et lycéens qui sont à l'écoute. Mais, je la répète, vous pouvez disserter.
On voit bien ce que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire que...
Écoutez, Nicole, ça vous donne des arguments pour la dissertation.
Non à la torture, non à l'esclavage, non à l'oppression. Et je voudrais finir aussi par la formule de Kofi Annan, qui nous a quittés récemment, et qui, dans un discours en 1997, disait... Quand avez-vous entendu une personne libre exiger qu'on mette fin à sa liberté ? Quand avez-vous entendu un esclave plaider pour l'esclavage ? C'est le refus de l'inhumain, le refus de l'intolérable. Et ça, c'est transculturel et donc c'est universel.
Tout à fait. Donc, on ne peut qu'écouter Bob Marley. Get up, stand up for your rights. Lève-toi, debout pour tes droits. N'abandonne pas le combat. Bob Marley sur Radio HDR.
Vous écoutez HDR.
C'est sur le 99.1.
99.1.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up,
jump, jump.
Stand up for your rights.
Renoir, 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 plutôt étranger, si tu es avec moi, si tu partages mes idées, Renoir, Renoir, Rabza, HDR, plutôt étranger,
toutes les cultures,
c'est sur 99.1.
Écoute, HDR quoi.
Nous voici de retour sur la radio HDR avec le groupe Amnesty International, donc qui rassemble Rouen et Mont-Saint-Aignan. On va terminer avec plein de bonnes choses. Alors des bonnes nouvelles, des mobilisations et puis des petites annonces sur les événements organisés par Amnesty. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles. Marie, si tu peux nous parler des prix Nobel de la paix.
Bien, nous avons accueilli avec plaisir l'attribution des deux prix Nobel de la paix, du prix Nobel de la paix à deux personnes qui nous tiennent à cœur. Le médecin de la République du Congo, l'homme qui répare les femmes, on l'appelle comme ça, parce que ça fait l'objet d'un film, Denis Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix, donc un vieux monsieur qui répare les femmes qui ont subi des violences sexuelles notamment, etc. Et le deuxième a une femme, une jeune femme de 25 ans, Nadia Murad, qui fait partie de la communauté yézidi en Irak et qui a été victime, elle, de violences sexuelles, des violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. Donc elle parcourt maintenant le monde puisqu'elle a été libérée et elle a obtenu le prix Nobel de la paix, voilà, avec Denis Mukwege. Très bonne nouvelle.
Très bien. Alors moi, je vais vous parler de la dépénalisation de l'homosexualité en Inde, donc pour les LGBTI, qui regroupent donc les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées. Donc cette bonne nouvelle donc, intègre une nouvelle ère d'égalité pour des millions de personnes hein, dans le pays. C'est une décision de la Cour suprême qui a été prise le 6 septembre dernier et donc qui a rendu les relations librement consenties entre adultes de même sexe légales. Donc voilà, c'est une décision qui a fait l'unanimité du collège de 5 juges dans le pays. Et donc qui a invalidé plutôt un article, donc c'est l'article 377, qui portait atteinte à 3 droits en particulier, le droit à l'égalité, le droit à la dignité et le droit à la liberté d'expression pour toute personne, quelle que soit leur orientation sexuelle. Donc la Cour suprême a instauré finalement le fait que toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle constitue une violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution indienne. Une bonne nouvelle. On en a plein d'autres. Marie, si tu peux nous parler du référendum en Roumanie.
Une autre, voilà, un peu sur le même sujet, puisque le gouvernement en Roumanie, donc vous avez peut-être entendu parler d'un projet, enfin d'un référendum organisé pour demander aux Roumains de graver dans le marbre de la Constitution l'interdiction ou l'impossibilité de se marier avec quelqu'un du même sexe. Et les Roumains, qui sont des citoyens avertis, ont refusé de se rendre à cette consultation, malgré toute la pression de l'Église orthodoxe, des partis, tous les partis étaient favorables, etc. Et parce qu'actuellement, la Constitution roumaine dit simplement que le mariage, c'est l'union de deux personnes, sans préciser de même sexe. Donc, effectivement, ça ouvre des possibilités, même si le mariage homosexuel n'est pas pratiqué en Roumanie. Donc, ça aurait empêché cette possibilité. Donc, les Roumains, seulement 20% se sont déplacés. Et dans ces 20%, 90% se prononçaient évidemment pour, mais il reste quand même presque 10% qui sont allés pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le changement de la Constitution. Donc, c'est une bonne nouvelle, puisque finalement, ça évite une reculade, on peut dire, ou une régression.
Alors on va faire un petit tour du monde parce que maintenant donc on part au Liban où la torture a été criminalisée. Pour contextualiser un petit peu, depuis 4 ans, il y a eu 4 cas de torture en détention qui ont été recensés au Liban. Les organisations nationales et internationales ont demandé aux autorités des enquêtes sur ces crimes et que des sanctions soient prises. Voilà, donc pour la première fois dans ce pays, le code pénal a inclus une définition de la torture et la nouvelle loi vient préciser le caractère irrecevable, notamment des aveux sous la torture. Cette loi demande au procureur général de prendre des mesures dans les 48 heures en cas de plainte ou d'information sur un cas de torture. Et cette loi instaure également le droit à la réadaptation et déclare la torture comme un crime, c'est-à-dire que la torture ne peut plus être justifiée par la nécessité ou par la sécurité nationale. Alors, il y a quand même des petites limites à cette nouvelle loi. C'est le délai de prescription, donc entre 3 et 10 ans à compter de la libération de la victime, qui finalement fait obstacle au droit au recours effectif. Et puis, le fait que... Alors, c'est une petite imprécision sur le fait qu'elle ne prend pas en compte les actes de torture pendant l'arrestation ou de l'usage de la force contre les manifestants qui n'opposent aucune résistance. On peut quand même dire que c'est une avancée qui reste perfectible et Amnesty International met quand même l'accent sur le fait que les organisations de défense des droits humains ont joué un grand rôle sur l'adoption dans l'adoption de cette loi et vont suivre du coup de près sa mise en œuvre. On part en Malaisie maintenant, qui a aboli la peine de mort. Enfin, Le 10 octobre dernier, le gouvernement malaisien a annoncé l'abolition de la peine de mort pour tous les crimes. Donc c'est une annonce qu'on doit prendre avec joie, voilà, c'est une avancée majeure dans les respects des droits humains. Maintenant, il faut quand même faire attention, puisque ça reste pour l'instant un projet de loi qui a été débattu la semaine dernière devant le Parlement de la Malaisie. Et il faut donc espérer que l'abolition de la peine de mort soit adoptée pour tous les crimes, sans exception. Donc, affaire à suivre.
D'accord. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, l'État de Washington, donc aux États-Unis, est le 20e État des États-Unis sur 50 à abolir la peine de mort ces jours-ci.
Voilà.
Donc on s'en réjouit, malgré toutes les nouvelles catastrophiques qui viennent des États-Unis, il y en a des bonnes.
Voilà. Et puis on finit notre petit tour du monde au Cambodge.
Oui.
Alors Marie, qu'as-tu à nous dire sur le Cambodge, sur Thep Vanny?
Oui, Thep Vanny, qui était une militante pour le droit au logement, a été libérée. Je ne peux pas vous en dire plus, mais elle a été libérée, donc c'est une bonne nouvelle.
Très bien.
Et on avait écrit en sa faveur.
Oh, c'est une très, très bonne nouvelle, parce que cette jeune femme est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui a milité pour que les gens de son quartier ne soient pas expulsés
sans indemnité.
Oui, oui, elle a vraiment mis sa sécurité en danger.
Donc on va continuer avec les mobilisations. Donc Amnesty International appelle à de nombreuses mobilisations et plus particulièrement, donc on va vous parler de trois grandes, on va dire, mobilisations, notamment en ce moment avec le contexte actuel, un appel à la remise en liberté d'un maire en Italie qui s'appelle Mimmo Luciano, qui est maire de Riace, une ville en Calabre en Italie. Il a été arrêté donc le 2 octobre, donc ce mois-ci, parce qu'il est accusé d'avoir favorisé l'immigration clandestine en Italie, donc dans son petit village. Concrètement, ce qu'il a fait, alors il est appelé le maire de l'accueil. Je pense que c'est assez parlant, puisque voilà, il a intégré les migrants qui sont venus tout simplement dans son village. Il s'est mis en grève de la faim avec la politique actuelle qui est mise en place en Italie. Faut quand même rappeler que grâce à cet accueil de ces migrants dans son village, il y a eu des créations d'emplois, notamment. Et les conditions de vie décentes et humaines ont été favorisées pour les migrants.
Et les villageois ont accueilli ces migrants.
Voilà.
Une intégration réussie.
Exactement. C'est une belle intégration et un bel exemple d'acte de solidarité avec la population locale et puis les personnes qui sont obligées finalement de quitter leur pays. Hein. Ils ne le font pas de gaieté de cœur. Donc, c'est. Voilà.
Espérons qu'il sera remis en liberté. Mais vous pouvez écrire, il y a un site où on peut le soutenir. Hein.
Voilà.
Amnesty se mobilise aussi, toujours dans les mobilisations, pour deux Russes qui sont emprisonnés. Donc Oleg Sentsov, tout le monde, enfin, on le connaît, hélas, parce qu'il fait une grève de la faim très prolongée, très médiatisée. Donc il a été condamné à 20 ans de prison pour s'être opposé à l'annexion de la Crimée. Et Alexandre Kolchenko, qui est emprisonné pour 10 ans parce qu'il aurait créé une antenne terroriste. Donc nous appelons à écrire.
Il y a une nouvelle récente, c'est
aux
que
autorités.
Le prix Sakharov vient d'être donné
tout à fait
à Oleg Sentsov.
Oui. Ce qui ne change pas la détermination du pouvoir russe, mais bon, c'est une avancée effectivement.
Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est ce type de prix, en l'occurrence tout à l'heure, c'était d'enlever un prix à une personne. C'est très important symboliquement.
Bien sûr. Nous, ce que nous demandons à Amnesty, c'est qu'ils aient un procès équitable, tous les deux, hein, puisque pour l'instant, ils ont été jugés par un tribunal militaire. Donc, on demande un procès au civil.
On part en Égypte cette fois-ci pour parler de Hanan Badr El-Din. Cette femme est détenue en prison actuellement, puisqu'elle a fait des recherches sur son mari qui a disparu, donc c'est sur les disparitions forcées. Son mari qui a disparu en juillet 2013, et donc elle a entamé des recherches pour le retrouver, ce qui n'a pas plu du tout aux autorités égyptiennes. Donc voilà, en ce moment elle est enfermée. Elle a été arrêtée donc le 6 mai 2017 à la prison de Kanatar, qui se trouve au nord du Caire, à l'occasion de visites à des personnes victimes de disparitions forcées. Voilà. Donc, elle reste dans l'attente en ce moment d'une enquête. Alors, pour des accusations qui n'ont strictement rien à voir, puisque elle est accusée d'appartenir à un groupe interdit. Voilà, donc c'est une petite entorse, on va dire, des autorités. Les vraies raisons de sa détention, c'est son militantisme pacifique et puis l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Voilà. Donc, je tiens quand même à dire, donc c'est Amnesty International qui a fait remonter l'information, qu'en ce moment, son état de santé s'est dégradé à cause de la détention. Elle a une maladie génétique et les autorités ont refusé récemment, je crois cet été, mois de février, de lui faire parvenir son traitement. Donc, sa famille a bataillé. Elle a actuellement son traitement, mais c'est très, très difficile. Voilà, son état de santé se dégrade. Et donc, je précise quand même qu'il est possible de la soutenir, notamment à travers les réseaux sociaux, pour interpeller les autorités égyptiennes sur cette injustice.
Donc, Anan Badr El-Din.
Voilà. On va faire une petite pause.
Donc, tout ça impose le respect, comme chante si bien Aretha Franklin. Respect, on a entendu parler de cette chanson, une chanson féministe qu'elle a détournée. On peut dire que c'est le détournement d'une chanson d'Otis Redding. Et au lieu de dire... un peu de respect quand je rentre à la maison, lui disait ça. Elle dit, quand tu rentres à la maison, j'aimerais bien que tu me respectes. Nous allons nous quitter l'antenne, mais nous avons encore beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Donc rendez-vous le mois prochain, puis en podcast. Vous pouvez nous retrouver, les émissions précédentes également en podcast. Vous pouvez nous retrouver tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit, sur les pages Facebook d'Amnesty. Vous tapez Amnesty Rouen, Amnesty Mont-Saint-Aignan, Amnesty France. Les mobilisations, on peut tout à fait trouver les pétitions. Toutes nos mobilisations, elles sont accessibles à tout le monde. Nous avons encore énormément de sujets pour vous entretenir. À bientôt.